écartant une explication pas compliquée au fait que nous en parlons les couilles.
Bonjour tout le monde! Enfin, Spectaculaire est de retour. Une petite absence la semaine dernière, mais en ce mercredi 1er décembre 2021, émission numéro 247, Christophe Rollin, je suis bien au micro avec, avec une invitée, Anne-Laure Collomb, commissaire de l'exposition Encore Elle. Alors attention, hein, j'ai bien précisé, je l'ai bien dit, je crois, Encore Elle. C'est bien en trois mots, Encore, C-O-R-P-S, Elle. E2LES, une exposition dans la très importante, dans la très vaste manifestation qui porte également un nom formidable, à corps et à cris. Je vous indique le sous-titre, il est question de... Oh non, j'ai plus ça sous les yeux. Mobilisation féministe et conditions de la vie des femmes. Actuellement, les temps passés, vous allez voir qu'on va même remonter jusqu'à l'Antiquité avec Aristote. Un vilain personnage. Pline aussi n'était pas très beau. Pas très bon, pas très bien. Nous allons évoquer cela pendant toute cette émission. Cette exposition se tient à la bibliothèque de la Part-Dieu, l'espace habituel d'exposition quand on entre sur la gauche. L'exposition se termine le 31 décembre. Il reste encore donc tout le mois de décembre pour la découvrir. Nous allons en parler avec la commissaire. Et nous allons commencer avec un titre, tout à fait dans la tonalité, de Aretha Franklin, le fameux Respect, et puis nous parcourrons ensuite le parcours de l'exposition pour terminer à 15h comme d'habitude. Vous nous écoutez sur radiocanu.org si vous le faites sur internet. Si c'est à Lyon, c'est plutôt le 102.2 de la bande FM. Il n'y a pas eu de blanc. Aretha Franklin était encore en train de continuer son Respect. J'ai retrouvé les éléments, donc je vais pouvoir en parler bien plus précisément. Non, je les ai cachés. Nous sommes bien en fort bonne compagnie. Je suis donc avec Anne-Laure Collomb. Elle va nous parler d'elle, mais dans un tout premier temps, Anne-Laure, excusez-moi une seconde. Bon, bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Nous allons parler donc de, à l'intérieur de l'événement à corps et à cri, conditions de vie des femmes et mobilisation féministe qui se tient à la bibliothèque de Lyon et de la métropole, certes, mais également dans maints lieux. Beaucoup de, dans les bibliothèques, dans même, n'y a-t-il pas un cinéma, je crois, enfin du moins, il y a beaucoup de choses qui se font dans différents endroits. Et vous, vous êtes plus précisément ici pour parler de l'exposition Encore Elle, qui, au contraire de ces événements qui vont se terminer ce samedi 4 décembre, l'exposition continue encore jusqu'au 31 décembre. Elle a ouvert le 5 octobre, donc c'est bien, deux mois sont passés, il en reste encore un entier. Encore Elle, une exposition vaste dans ce bel espace qui se trouve dans la bibliothèque de la Part-Dieu, à l'entrée. Et c'est vraiment très intéressant. Mais dans un premier temps, Anne-Laure, il faut que vous nous indiquiez, parce que d'ailleurs cela est en rapport avec l'exposition, pourquoi y a-t-il à ce point un aspect artistique contemporain? Serait-ce des études que vous auriez faites auparavant, Anne-Laure?
Oui, alors tout à fait. Moi, j'ai fait des études en histoire de l'art. J'ai fait une thèse en histoire de l'art sur une technique de peinture au XVIe et XVIIe siècle. C'est peut-être aussi ce qui explique que j'ai eu envie de mettre des documents anciens du XVIe, du XVIIe siècle. Et puis une entrée art contemporain, parce que par le biais de mes études, j'ai forcément eu des cours sur l'art contemporain et c'est une passion qui m'est restée de mes études. Donc, envie de présenter ces grandes femmes de l'histoire de l'art.
Des études à Lyon ou ailleurs?
J'ai étudié en fait à l'Université Lyon 2, quasiment tout mon cursus. Je suis partie en fait pour ma thèse en Italie. J'ai étudié puisque mon sujet était sur une technique italienne. Donc j'ai passé quasiment la totalité de ma thèse en Italie. Et je faisais ça en co-tutelle avec l'Université de Genève parce que j'avais rencontré un grand monsieur de l'histoire de l'art et qui avait accepté de me prendre comme étudiante.
Donc, Daniel Arras? Non, c'est pas.
Non. Alors il est moins connu. C'est un élève de Federico Zeri. C'est Mauro Natale. Mais en Italie, c'est quelqu'un qui est apprécié. On reconnaît son travail.
Ça s'est bien passé. Donc 3 ans en Italie, 3-4 ans même, davantage.
Oui, c'est ça. J'ai pu bénéficier une année d'une bourse suisse d'ailleurs. Et puis sinon, je fais des allers-retours entre la France. France et Lyon, donc la France et Lyon, la France et l'Italie, Lyon pour trouver du travail, pouvoir avoir un petit pécule, et puis dès que j'avais ce pécule, je repartais en Italie étudier.
Vous l'avez indiqué, la ville?
J'étais en Italie, j'étais un petit peu partout, j'étais à Milan, alors je suis restée beaucoup à Rome, à Florence. Mais j'ai navigué. Moi, j'ai eu énormément de chance.
Hein. Oui, on peut trouver pire. Hein,
à Gênes, à Venise, à Naples. Donc, ça a été de très belles études.
Peut-être pour remonter vraiment à peine avant, pourquoi ce goût pour l'art, et puis peut-être de manière plus précise pour l'histoire de l'art, est-ce qu'il y a un moment de la petite enfance qui aurait...
J'imagine que c'est ce que dirait Bourdieu, c'est un héritage. Ah. J'imagine que mes parents et peut-être plus ma mère m'a souvent amené, m'a fait visiter un certain nombre de monuments.
À Lyon donc un peu notamment.
À Lyon ou en France, que j'ai pu. J'ai des souvenirs de Versailles enfant par exemple. Enfin, c'est des choses qui m'ont marqué. Un héritage aussi parce que beaucoup d'intérêt pour l'histoire, et dans l'histoire de l'art on retrouve aussi cet intérêt donc pour l'histoire, donc les deux sont liés et puis après le bac il faut faire des études, et j'avais plutôt envie de faire des études qui allaient m'intéresser plus que celles qui allaient m'amener un débouché professionnel.
Et donc, alors, une fois ces études, cette thèse en poche, en main, une fois diplômée, vous entrez à la bibliothèque dans un service très intéressant.
Alors, j'ai eu une étape intermédiaire,
oui,
on va dire.
Années entre-temps.
Donc, après la thèse, je suis au départ rentrée à la bibliothèque parce que c'était toujours en rapport avec l'histoire de l'art. J'ai travaillé pour l'Institut d'Histoire du Livre, qui était donc rattaché à la bibliothèque. Donc, je travaillais avec le musée de l'imprimerie. Et notamment, c'était sous la direction d'Alan Marshall et de Patrick Bazin, la bibliothèque municipale de Lyon.
Ancien directeur.
Ancien directeur. Bazin, et oui. Donc, j'ai passé 2 ans pour travailler pour cet institut. Donc c'était intéressant puisque l'école proposait, enfin l'institut proposait des formations, une école sur les incunables. Enfin il y avait vraiment ça, c'était du coup ça me rapprochait un petit peu de mes études. Et puis à l'époque l'ancien directeur Patrick Bazin m'avait dit, vous savez, vous venez de rentrer, mais c'est un contrat d'un an, il faut vous passer les concours si vous voulez rester à la bibliothèque. J'ai passé le concours, je l'ai réussi et je suis restée à la bibliothèque. Donc, au guichet du savoir. Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement, ce guichet du savoir?
Donc, aujourd'hui, je mettrai des parenthèses sur le aujourd'hui. Mais, donc, j'ai dirigé le guichet du savoir, qui est un service de questions-réponses de la bibliothèque. Alors, ce service de questions-réponses, je lance un appel à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Vous pouvez poser tout type de questions. C'est un service gratuit. Les bibliothécaires vous répondent dans les 72 heures.
C'est donc internet, téléphone, papier?
Par internet, en fait. Oui. Donc, vous allez sur le site du guichet du savoir. Ils vous répondent par internet. Je dois faire l'éloge du travail de mes collègues qui fournissent en général d'excellentes réponses. Donc, c'est plutôt un service intéressant. Voilà, je n'osais pas jusqu'à présent moi m'en servir personnellement, mais je pense que le jour où je serai plus à la bibliothèque, je m'en servirai personnellement parce que les réponses sont de qualité.
Sourcées toujours, oui.
Toujours sourcées. On fait attention aux auteurs, aux autrices qu'on va citer, aux références, aux dates, à la sélection même du type de document qu'on va sélectionner. On essaye de répondre au plus près des questions soulevées par les internautes. Et ça, on peut répondre. En fait, il n'y a pas de limite géographique. Que vous soyez lyonnais, français, que vous habitiez à l'étranger, tout le monde peut nous poser des questions. C'est anonyme, donc vous avez juste à vous créer un mot de passe et voilà.
Il faut que vous donniez un ou deux exemples de questions, pas forcément farfelues, mais des questions
on peut avoir des questions sur, je sais pas, sur une sculpture, sur la place des Jacobins, donc on va avoir des questions historiques. Mais on peut aussi avoir des questions
d'enfants. Ce sont des académiciens, je crois, c'est ça, sur la place des Jacobins, il me semble. Ce sont des noms propres,
oui.
Quatre hommes.
Oui.
Ouais. Ah, très intéressant, on évoquera peut-être ensuite des hommes. Très bien.
Et du coup, on peut poser aussi des questions du type les enfants, plutôt, est-ce que le ciel est bleu? Mais on peut avoir aussi des questions propres à certaines études, je ne sais pas, sur du marketing, des questions sur environnementales ou sur les animaux. On a beaucoup de questions. Et d'ailleurs, on a beaucoup de questions d'enfants sur les animaux. Et ce sont souvent les plus durs à traiter. Parce qu'ils trouvent toujours des questions un petit peu farfelues. Que les scientifiques, sur lesquels les scientifiques se sont pas forcément penchés. Donc voilà, je sais que les questions des enfants sont souvent très intéressantes et il est particulièrement difficile de leur répondre.
Y a-t-il un partenariat avec l'émission de France Inter? Je sais plus quel est son nom.
Non, Maman les petits bâtons. Non, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de partenariat, mais c'est vrai que c'est un peu cette idée-là.
À chaque fois, l'intervenant est un spécialiste.
Alors
c'est
là,
ça,
voilà, là, l'intervenant est un spécialiste, alors que nous. Ce sont des bibliothécaires. Alors on peut dire qu'ils sont spécialistes dans le sens où ce sont les bibliothécaires qui vont répondre par rapport à leur champ de compétences. Et puis, il nous arrive, lorsque au sein de la bibliothèque, on ne trouve pas la réponse, qu'à ce moment-là, on fasse appel à gérer une aide extérieure. Donc, on peut contacter des universitaires ou des services administratifs. Ou voilà. En tout cas, c'est un très beau service. Donc, je vous engage à poser des questions sur le guichet du savoir. Et puis en parallèle, je m'occupe aussi d'un magazine en ligne, toujours de la bibliothèque municipale, qui s'appelle L'Influx.
Avec un X à la fin.
Avec
oui,
un ouais. X à la fin. Et donc L'Influx, l'idée c'est toujours de partir d'une actualité, donc, ou en tout cas d'un sujet d'actualité, et d'essayer de le traiter à travers nos collections, ou en tout cas nos champs de compétences. Donc on va présenter des ressources qui permettront d'approfondir le sujet.
C'est intéressant, vous parlez de L'Influx, ou alors vous parlez de Encore Elle. Cette exposition n'est-elle pas une comment vous avez, quel terme vous avez employé à l'instant, un traitement d'une question d'actualité à travers des collections ou des œuvres prêtées, certes, des choses qu'un questionnaire à la bibliothèque.
Alors, effectivement, je n'avais pas fait le rapport, mais il y a peut-être eu une confusion entre le montage et l'exposition. Mais non, je crois que... Je rigole, mais
je lançais seulement ça comme question parce que je vois que l'heure à 14h20, je pense qu'il est temps de commencer à entrer dans cette deuxième grande question. Oui. On va écouter dans quelques instants Nina Hagen, mais il faut commencer peut-être un peu cette question qui est et que faites-vous actuellement Anne-Laure Collomb à la bibliothèque, donc une exposition encore elle. Alors non, je vous ai coupé. Vous étiez en train de commencer à répondre sur l'influx. Et...
Justement, alors je vous disais que effectivement, on avait conçu cette exposition donc encore elle en fonction de nos collections. C'est-à-dire que l'idée c'était de partir de nos collections pour bâtir un propos, et ce propos on avait choisi de traiter un sujet d'actualité qui est pour le coup, là, ici, le corps des femmes. Mais en fait, le corps des femmes, l'idée première était de rendre hommage à toutes les luttes, à toutes les militantes, à toutes les artistes qui s'étaient impliquées pour faire évoluer les conditions de vie des femmes, leur statut. Et donc, notre porte d'entrée, c'est une interrogation sur le corps des femmes, puisque c'est ce corps qui va faire l'objet d'interdits, de normes pesantes, de prescriptions,
de tabous. Est-ce la paronomasse de proscription ? Prescription et proscription des...
Voilà, donc c'était un petit peu cette idée de rentrer par ce biais pour... et comme je vous le disais, étant donné qu'on part de nos collections, on a décidé de travailler sur un temps long pour montrer justement comment se constituent ces discours, en fait, et montrer aussi le pourquoi de ces luttes, rappeler. Et quand je vous disais rendre hommage, et ben rendre hommage, c'est aussi rappeler que voilà, cet hommage, on le voit à travers des gens qu'on va citer dans notre exposition, c'est-à-dire Gisèle Halimi, Simone Veil, mais aussi des vidéastes comme Carole Roussopoulos. Enfin, en tout cas, ce sont des personnes qui ont permis de faire évoluer, de se questionner, de s'interroger sur toutes ces normes.
14h23, je crois que c'est très bien. On va écouter Nina Hagen, comme ça nous sommes déjà entrés dans cette exposition un petit peu, ou disons dans la genèse, dans la réflexion, dans le propos de cette exposition. On va ensuite peut-être parcourir plus ou moins les différentes parties, ou peut-être auriez-vous des éclairages particuliers à nous apporter sur des éléments de votre choix. Je ne sais pas si je vais réussir à le prononcer correctement, ce titre-là. Unbeschreiblich, et je crois qu'il manque le weiblich, c'est ouais. Ça ensuite. La traduction, la vibe, c'est la femme en allemand, oui. Je crois. Donc c'est... vous avez...
En fait, j'ai choisi cette chanson parce que... pour deux choses. Alors, Nina Hagen, parce que c'est totalement personnel. Ça me ramène à ma jeunesse où j'aimais bien écouter du rock, du punk. Et voilà, donc c'était aussi un retour sur moi. C'est ce que je vous disais aussi, cet hommage. Je pense que c'est des femmes comme ça. En tout cas, ce sont des femmes qui font évoluer les choses, et je pense que c'est important de le rappeler et voilà, de revenir là-dessus. Et puis là, parce que elle a fait, c'est dans cet album, il est assez courageux, notamment pour la période, puisqu'elle parle à la fois de l'avortement.
C'est son premier, hein, je crois, 78, il me
c'est
semble.
C'est ça, 1978. Avortement, et puis elle touche aussi des questions comme l'homosexualité, donc je trouve que c'est on peut l'écouter.
Très bien, je vous remercie pour cette belle introduction. D'ailleurs, je n'aurais pas dû ajouter de mots. Écoutons Nina Hagen et nous reprenons sur cette exposition Encore elle, qui a commencé le 5 octobre, c'était un mardi, et se terminera le 31 décembre, c'est un jeudi, je crois, je crois que ce sera le vendredi 1er janvier. Donc il reste encore, nous sommes le 1er aujourd'hui, oui. Encore 30 jours pour aller voir cette exposition vraiment intéressante. Il y a peut-être une toute petite chose qu'on pourrait évoquer éventuellement, il faut un pass sanitaire pour la voir. Ah, c'est peut-être un peu... bref, écoutons Nina Hagen, et puis nous continuons ensuite sur cette très intéressante exposition.
und über Hoffmann. Ich hab mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Als es vorbei war, ging's mir zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatme. Ich hab mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne. Simone Beauvoir sagt Gott bewahr. Und vor dem ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich.
Je crois que Nina Hagen claque la porte, me semble-t-il, à la fin de ce titre. D'ailleurs, je ne vous ai pas remercié, Anne-Laure Collomb. Merci beaucoup pour cette programmation musicale. Il nous reste encore d'autres titres à venir. Juliette, il est formidable ce titre. Les rimes féminines. Et puis, peut-être quelque chose à piocher dans l'œuvre d'Anne Passeo, que je ne connais pas. Nous verrons
vous
ça.
Allez découvrir.
Donc, vous êtes là pour nous parler de l'exposition Encore Elle, qui se tient à la bibliothèque de la Part-Dieu jusqu'au 31 décembre. Et puisque vous en êtes la commissaire, comment vous avez indiqué un peu le propos, la genèse, une envie de traiter le corps féminin? On vient de l'évoquer hors antenne. C'est des questions quand même très, très, très délicates, très difficiles, très sensibles. Donc, comment parler de l'exposition? Le parcours peut-être, ces belles œuvres de Sabine Lee qui nous accueillent à l'entrée et à la sortie, qui sont imposantes, mais qui sont magnifiques. Une je sais même pas, une féminité qui est forte, Anne-Laure, que dire?
Alors, que dire? Donc, effectivement, vous avez parlé de Sabine Lee, qui est une sculptrice lyonnaise. C'est une très belle découverte, parce qu'effectivement, ses œuvres sont très fortes, dégagent un message très optimiste et très fort de femmes à la fois guerrières, à la fois gardiennes, de femmes fortes, mais fortes. Justement, qui s'inscrit aussi dans cette idée de lutte.
Est-ce qu'on a dit ce sont des statues? Je
ne
sais pas si j'ai prononcé ce terme-là.
J'ai dit sculptrice, mais effectivement, ce sont des statues assez imposantes.
En taille 2 mètres, hein, plus ou moins, c'est ça?
Oui, c'est ça. Elles sont...
Ça doit être lourd aussi.
Alors, je pense que c'est très... Je pense que c'est lourd. Je ne sais plus combien Sabine avait dit qu'elle pesait, mais effectivement, elles sont assez lourdes. Et en fait, donc on rentre et on sort avec les sculptures de Sabine Lee, et vous verrez dans tout le parcours, et après je vous parlerai plus des axes qui sont abordés, dans tout le parcours il y a une diversité de documents, et une présentation à la fois d'œuvres d'art contemporain d'artistes des années 70, mais aussi l'envie, l'idée de, en tout cas de mettre en parallèle ces créations artistiques avec celles des nouvelles générations. Donc j'ancre aussi Sabini dans ces nouvelles générations. Et donc on a dans cette nouvelle génération, donc on va avoir une confrontation. Et c'était l'idée justement pour voir si finalement, par rapport aux années 70, aujourd'hui, quand on était artiste femme, voire artiste engagée, si les choses avaient vraiment évolué, s'il y avait encore des luttes qui restaient d'actualité, si au contraire elles étaient dépassées. Donc ce va-et-vient permettait en fait d'aborder ça. Et puis alors après, pour revenir plus précisément au contenu de l'exposition, elle s'articule en trois grands axes. Et dans chaque grand axe, on va essayer de décliner un certain nombre de sujets. Alors le premier axe, c'est le corps culturel, puisque c'était l'idée de revenir sur plein de sujets différents, à la fois la question des normes esthétiques, l'idée de la conception du discours d'une femme séductrice, dangereuse, fantasmée, de revenir aussi sur, finalement, puisqu'on parle de normes esthétiques, aussi des tortures que les femmes s'infligent pour réussir à atteindre, si quand bien même elles seraient atteignables, ces normes esthétiques, de revenir sur les tabous, les interdits. On l'a appelé aussi le corps mutilé, c'est-à-dire ce qui n'est pas représentable, ce que l'on doit taire. Ça peut être la vieillesse, les menstruations. Et une dernière partie du corps culturel qui porte sur la question vestimentaire, puisqu'elle est porteuse de genre et porteuse d'un milieu social souvent. Et donc du coup, c'était de revenir là-dessus et de questionner ça à travers l'idée du corps voilé ou du corps dévoilé. Donc ça, c'est le premier grand axe. Le deuxième grand axe est sur le corps biologique. Donc là, il s'agissait de rappeler un petit peu comment s'était fait la construction en fait et la représentation du sexe, de revenir sur ces évolutions jusqu'à, je dirais, une classification, une catégorisation binaire qui est lue d'un certain nombre de tendances qui d'ailleurs du coup est lue de la question du genre. Et par rapport à cette catégorisation, il nous semblait important de revenir, notamment quand elle s'est accentuée au 19e siècle, sur tout ce que ça entraînait, c'est-à-dire l'émergence de maladies propres aux femmes, donc de l'hystérie,
la fameuse,
la question de l'hypersexualisation, et tout ça, en fait, finalement, c'est souvent toujours rattaché. On parle de matrice utérine, de fureur utérine, donc c'est toujours rapporté au sexe des femmes, et du coup, ça nous amenait à partir sur la question du corps reproducteur, où la femme, elle se retrouve enfermée dans ce corps du reproducteur. Et quand je vous disais qu'on souhaitait rendre hommage à toutes les femmes qui ont milité, qui ont fait progresser les droits, eh bien, on parle dans une dernière partie de réappropriation du corps. Et dans la réappropriation du corps, eh bien, il y aura des moments clés, des moments importants de l'histoire, c'est-à-dire la présentation du manifeste des 343, mais c'est aussi...
77, 18, je ne sais plus. Non, plutôt, 71, 10
oui. Je suis perdue là.
Ouais.
La présentation aussi du procès de Bobigny, de Gisèle Halimi, ou le discours de Simone Veil à l'Assemblée, mais c'est aussi la présentation, par exemple, d'affiches du MLF. Enfin, en tout cas, on retrace tous ces moments, ces temps forts, jusqu'à une ouverture sur la question de la PMA et de la GPA. Et puis aussi de la sexualité, du plaisir, puisque c'est une question qui revient aussi encore, qui est toujours été présente, mais que la jeune génération se réapproprie, je dirais. Et d'ailleurs, on présente une œuvre de Kubra Hademi, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler ou non. Et enfin, pour faire bref, donc nous avons un troisième grand axe, qui est le corps social. Et dans cette partie du corps social, on revenait là aussi finalement sur une catégorisation qui s'était surtout développée et qui avait cristallisé un petit peu les rôles des femmes et des hommes, puisque c'est la question de la femme au foyer, de la femme de la ménagère. Et donc dans cette partie, on va à la fois présenter des documents, que ça soit des livres de la ménagère, des affiches, qui montre comment des discours sont faits et enferment ces femmes là-dedans. Mais aussi, on va mettre des contre-exemples. Donc, on parle des pétroleuses. Alors, les pétroleuses, c'est les femmes qui se sont investies pendant la Commune. Et d'ailleurs, on voit bien que finalement, très rapidement, elles sont caricaturées. Donc, on utilise ce terme de pétroleuse. On présente des traités, une performance. Donc, dans une deuxième sous-partie, on aborde les corps en lutte. Il nous semblait important de revenir sur des luttes emblématiques. Alors, sur ces luttes emblématiques, on a abordé la question de l'IP. C'est important parce que la grève, les grèves des ouvriers et des ouvrières à l'IP, souvent on oublie le rôle important qu'ont joué les femmes. On voulait revenir là-dessus en présentant notamment un documentaire de Carole Roussopoulos. Revenir aussi sur les prostituées de Saint-Dizier. Il y a d'ailleurs eu dans le cadre de Accor et Acri une table ronde sur cette thématique. Et d'ailleurs, sachez que toutes les rencontres, celles de la Pardieu, sont filmées, donc vous pourrez les retrouver sur notre site. On revient sur une dernière lutte plus actuelle, celle de l'hôtel Ibis, qui permettait aussi de revenir sur la question des femmes au foyer, puisqu'en fait, finalement, dans la sphère professionnelle, on s'aperçoit que ce discours de femmes au foyer, il a réparti un petit peu les rôles et les fonctions dans les en termes professionnels, et on peut encore voir aujourd'hui que les femmes souvent sont enfermées dans ce qu'on appelle les métiers du care. Donc, on voulait revenir là-dessus. Et enfin, nous avons deux dernières sous-parties qui questionnent en fait la place des femmes dans l'espace public, et notamment les manifestations, ou en tout cas des femmes qui se servent de leur corps pour s'emparer de l'espace public et dénoncer justement cette mainmise, je dirais, quasiment sur l'espace public. Donc ça va toujours un hommage, la tentative du dépôt de gerbes
de la femme,
ouais, voilà,
du
exactement,
soldat inconnu.
Jusqu'à des présentations d'œuvres d'Orlan ou de Valiexport. Et nous achevons cette visite par une dernière question qui est d'actualité. Alors, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais qui est d'actualité, qui est celle des violences. On souhaitait revenir là-dessus et toujours l'inscrire là aussi quand on présente un certain nombre de documents. On essaye toujours d'inscrire cette question là aussi dans des considérations dans le temps long, c'est-à-dire montrer justement des documents, une estampe ou un roman photo qui montre comment finalement ces images de violence, elles sont légitimées et on se les approprie en fait sans forcément les questionner. Donc là, c'était l'idée de revenir aussi là-dessus. Voilà, et on termine donc ce parcours donc, qui est très riche, avec beaucoup de documents, et il s'achève avec notre femme forte de Sabine Lee.
Plus petite peut-être, non? Il me semble la statue à la sortie.
Je crois qu'elle a fait la même dimension, mais alors il y a le fait qu'elle soit exposée différemment.
Oui,
et puis elles n'ont pas les mêmes couleurs en fait, parce que son procédé là est cuit au feu dans un grand four, c'est de la terre, et donc en fonction de la cuisson, on n'a pas les mêmes couleurs. Donc celle de l'entrée est peut-être un peu plus, enfin donne l'impression d'être un peu plus imposante.
Vous le dites à l'instant, donc en parlant de cette statue, peut-être que vous pourriez éventuellement en indiquer un ou deux mots sur l'accrochage. Ce sont donc tout ce que vous avez commenté, ce sont des œuvres qui sont... vous avez parlé de vidéos, vous avez parlé d'affiches, il y a des affiches, il y a tout type de documents, des extraits de textes. Et donc, on chemine vraiment dans une exposition, dans cette exposition, avec des éléments qui sont tout de même un peu différents. Enfin, certains sont accrochés, d'autres sont présentés, des livres sont ouverts, c'est ça?
Oui.
Est-ce que vous pourriez parler de ce cheminement? Vous avez indiqué donc les trois axes. Ils sont quand même assez bien matérialisés. Je crois qu'on comprend qu'on passe d'une section à une autre. De toute façon, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il ne faut pas non plus que le terme puisse effrayer. Il y a des textes qui sont présentés, mais les polices sont très souvent différentes. Donc, on comprend bien que parfois, ça indique une forme de citation. On ne naît pas femme, on le devient. Ou bien les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Là, ce sont plus ou moins les grands titres des sections. C'est ça.
Exactement. On avait décidé pour les titres des sections, c'est-à-dire de ne pas donner de titre, mais de se servir, enfin, de faire des citations ou de reprendre des slogans, qui nous semblait important pour démarrer en tout cas nos interrogations, qui étaient un petit peu des marqueurs, des entrées. Et alors donc, quand vous entrez, effectivement, en fonction des supports, bah, vous avez des présentations différentes, puisqu'on va trouver des affiches. Les manuscrits sont, pour des questions de conservation, on ne va pas présenter les manuscrits ou des livres du XVIIe siècle de la même façon qu'une œuvre d'art contemporain. Et puis, on a aussi beaucoup d'art contemporain où ce sont des projections, ce sont des vidéos. Donc là, on est obligé de concevoir différemment. Mais par contre, il y a une chose qui est dans l'ensemble quasiment du parcours, c'est qu'on a toujours essayé de faire des passerelles entre les textes, je dirais anciens, des discours du passé, avec des œuvres qui les interrogeaient, en fait. En fait, une sorte de passerelle, c'est-à-dire que... ou de déconstruction. Il y a une construction, et par exemple, on a montré une artiste comme Pipi Lothiériste. Imaginons, peut-être pour être plus précis, je vais donner un exemple. On a effectivement, on présente un ouvrage donc de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, dans lequel en fait il parle des menstruations. Alors bien évidemment que dans tous les textes, on a toujours une vision très négative, avec des termes un peu abrupts, enfin même assez terribles finalement.
L'extrait stupéfiant, les miroirs se ternissent, les fleurs fanent, enfin du moins voilà, c'est une femme qui a ses règles est un radioactive.
Oui, elle est totalement. C'est quelqu'un qu'il faut. C'est à la limite, c'est presque l'incarnation de ce qu'on pourrait dire du diable, enfin d'une chose maléfique qu'il faut pas approcher parce que. Et d'ailleurs, des traités de criminologie au XIXe siècle qui mettaient en avant, entre guillemets, qui mettaient en rapport le crime avec la personne qui avait ses menstruations. Donc, c'est vraiment terrifique. Donc, on a mis, par exemple, cet extrait de Pline l'Ancien et on le met en rapport avec une œuvre de Pipi Lothiériste qui, elle, justement, fait l'inverse. C'est-à-dire, elle fait l'apologie, entre guillemets, des menstruations parce qu'elle se dit que finalement... quand on a ces règles, c'est plutôt signe de bonne santé et qu'on devrait arrêter d'avoir justement ce jugement négatif là-dessus. Donc on essaye toujours d'avoir différentes entrées, c'est-à-dire la construction d'un discours, la déconstruction. Alors c'est pas toujours possible, mais en tout cas on essaye de montrer un petit peu ces différentes entrées. Et puis au sein de ces axes, lorsqu'on n'est pas dans cette optique, on est aussi dans l'optique d'ouverture, ça on ouvre sur des débats actuels. Donc c'est la question... question du genre, la question de la PMA par exemple, la question un peu plus large du voile, enfin il y a plein de questionnements auxquels on ne répond pas, mais en fait on ouvre sur ces sujets d'actualité. Alors soit on le fait par le biais d'œuvres, d'artistes qui se sont emparés de ces sujets, soit on le fait au travers des, par exemple des, souvent des affiches qui mènent ces nouvelles revendications.
Peut-être, puis-je indiquer en complément, enfin, il me semble-t-il que c'est un excellent complément, cette, je ne sais pas comment le nommer, c'est plus un flyer, là, ça, c'est un...
Alors, c'est une petite plaquette de présentation.
D'accompagnement de cette exposition.
D'accompagnement, j'ai eu une grande chance parce que, pour des questions de budget, on ne pouvait pas forcément faire de catalogue d'exposition. Mais j'ai eu la chance d'avoir des personnes, et notamment la directrice de la communication, qui nous ont suivis dans nos démarches et qui, du coup, nous ont fait une belle plaquette, puisque j'avais demandé à ce que la plupart des textes soient repris, c'est-à-dire des axes.
C'est bien le cas.
Les axes et les sous-parties qu'on reprenne.
Je n'avais pas donné nos désirs font désordre. Je crois que je les ai tous donnés comme ça.
Voilà, et du coup, elle a repris tous les textes et c'est une belle chose. Voilà, parce que je crois que c'est important, et c'est important qu'aujourd'hui la bibliothèque municipale de Lyon, elle puisse en tout cas s'inscrire dans les débats actuels.
Peu de reproduction des œuvres elles-mêmes, mais c'est tant mieux. Les œuvres, si on souhaite les voir, il vaut mieux aller les voir donc sur place à la bibliothèque. En revanche, je vous l'avais indiqué, les textes sont assez bien repris de manière très complète. Un exemple, par exemple, je retrouve ce passage. En 2012, l'artiste portugaise Joana Vasconcelos doit présenter au château de Versailles, à Inova, un lustre composé de milliers de tampons hygiéniques. Qu'est-il arrivé, Anne-Laure Collomb?
En fait, c'est une œuvre qui a été censurée, mais comme tant d'autres, en fait, on s'aperçoit que dans les années 70, quand les artistes faisaient des performances à partir de leur menstruation, Valley Export, Gina Payne, mais aussi Orlon, on a fait... ça scandalisait. Et ben aujourd'hui c'est toujours la même chose, ça scandalise. Donc finalement, les descriptions de Pline l'Ancien n'ont pas totalement disparu.
Je vous fais grâce à un auditeur de l'Antiquité, auditeur auditrice sur Aristote qui décrit la femme. Je ne le dirai pas, vous n'avez qu'à vous déplacer pour constater la chose. Ce que je voulais indiquer, c'est que... ah mince, j'avais un élément que j'ai perdu. Ah si, si. Ces fameuses, je crois qu'on en donne trois des je sais pas comment les nommer, des mouvements, enfin du moins des périodes de féminisme.
Oui, il y a des vagues, ce qu'on appelle.
Voilà, les vagues également, c'est le terme que l'on.
C'est controversé cette appellation, mais effectivement, il y a quatre mouvements.
Alors historiquement, le premier serait Olympe de Gouges, c'est ça?
Oui, on a Olympe de Gouges, du droit de vote, des suffragettes, en fait, de cette implication. Alors, Olympe de Gouges, elle a fait un droit de. Au lieu, elle a fait le contre-pied du droit universel des hommes pour faire le droit universel des femmes. Hein.
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Voilà. Non, mais c'est. Mais justement, je vous lance sur quelque chose qui n'est pas dans l'exposition. C'était forcément des choix aussi à faire.
Ça s'est d'ailleurs assez mal passé pour elle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, elle termine guillotinée. Donc,
sur l'échafaud, oui. Donc, cela n'est pas dans l'exposition, parce que voilà, c'est pas non plus. Je reprenais tout à l'heure le titre de l'événement à corps et à cri, Conditions de vie des femmes, me semble-t-il, ça c'est quand même bien présent dans l'exposition. Mobilisation féministe, c'est également présent, mais enfin voilà, par exemple, Olympe de Gouges.
Non, alors on n'a pas mis les grandes figures clés. On est parti plutôt sur les années 70, puisque c'était cette idée-là, c'était de se saisir de cette vague-là.
Anniversaire des 50 ans en 2020 dernier.
Voilà, exactement. C'était de revenir sur les 50 ans, de rendre hommage du coup au MLF, de cette implication. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Mais quand je vous dis que c'est le point de départ, oui et non, puisque comme je vous disais, on positionnait beaucoup de documents anciens. Et ça, c'était en sorte pour montrer la construction des discours. C'est-à-dire que si le focus est mis sur les actions sur les années 70 jusqu'à nos jours, on a quand même présenté. D'ailleurs, on présente des textes qui sont des grandes des références. C'est-à-dire que ça soit Pline, que ce soit les textes Le Courtisan de Castiglione, que ça soit le dictionnaire universitaire, le dictionnaire des sciences médicales, Jean-Jacques Rousseau. Ce sont des textes. Enfin voilà, il fallait revenir sur des textes écrits par des hommes. Qui présentent un certain nombre de points de vue. Ce sont des textes qui sont donc quand même lus. Donc on voulait revenir là-dessus. Et puis montrer les nouveaux combats. Alors en revanche, et aussi pourquoi pas, ne pas avoir parlé de toutes ces personnalités du type Olympe de Gouges? Parce que, alors déjà, il y en a un grand nombre, qu'il fallait faire des choix. Et puis parce que finalement, je crois que dans cette exposition, il y avait une volonté plutôt de déconstruire des discours. Et que c'est aussi surprendre pour déconstruire les discours, c'est-à-dire que ce qu'on a intégré, voilà, donc ne pas montrer des choses que tout le monde connaisse, mais montrer plutôt des choses, ou alors que tout le monde connaît, parce que par exemple, beaucoup de gens ont pu lire Jean-Jacques Rousseau, mais le montrer autrement. Et donc Olympe de Gouges ou ce genre de personnalité, c'est sûr qu'on aurait pu les montrer, ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une autre exposition, mais c'était pas l'idée de faire une exposition de femmes célèbres non plus, enfin c'était pas le propos.
Les femmes célèbres, je crois que la transition est toute trouvée, on les a. Les voici, les femmes célèbres avec Juliette, ça va pouvoir permettre de faire une petite pause hein, tout de même, puisque... C'est très bien, je vous remercie Anne-Laure, vous avez beaucoup parlé. Donc les rimes féminines, c'est name dropping, il y a combien de... Elle nomme quoi, 30, 50 femmes, c'est ça?
Je sais plus.
Donc ça va être très bien, faisons cette pause. Deux petites choses, je l'ai retrouvé la date, le manifeste des 343 oui, salopes, le 26 novembre 1974. Ouais. Et puis je vous propose, auditeur, auditrice, le terme américain est peut-être pas forcément très bon, je me demande quel mot l'Académie a pu trouver, un peu de teasing, restez à l'écoute. Pour savoir en fin d'émission, dans les dernières parties, quelle est là, ou plutôt quelles sont les deux, trois œuvres que la commissaire d'exposition, Anne-Laure Collomb, a pas tant peut-être particulièrement appréciées, mais œuvres sur lesquelles elle souhaite attirer le regard du visiteur, de la visiteuse, c'est-à-dire lui indiquer des éléments, des clés de compréhension. Il me semble par exemple que je mange complètement son nom, l'artiste. Iranienne, c'est ça?
Afghane.
Afghane.
Kubra Khademi.
Voilà, c'est ça, c'est elle par exemple. Eh bien, patientons quelques instants. Écoutons d'abord Juliette pour ses rimes féminines, et puis nous continuerons toujours dans Spectaculaire, émission 247, pour parler de l'exposition Encore Elle, qui se tient à la bibliothèque de la Part-Dieu. C'est jusqu'au, je l'ai indiqué, jusqu'au jeudi 31 décembre.
Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin ou Garbeau dans la Reine Christine. Sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel ou l'enragée Louise Michel. Vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ces divergences, ces beautés, ces intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Mulholliday. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan. Pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labbé, ou Louandre à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. S'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux métempsychoses, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loï Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. De suite les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire, la Yourcenar, Sarah Bernard, ou la très sage Simone de Beauvoir. Une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or, la Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes-Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille, Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai. Et les agitatrices de bouche, brandissant l'espoir et la gouge, aux lames de bouge, aux rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'élise, Madame Donia ou Miss Concariotis, ou les dames Sanchez.
Ce n'est pas très beau, Anne-Laure, c'est avec votre permission que je fais ça. La chanson de Juliette, les rimes féminines, n'est pas terminée. Il en restait encore un peu plus d'une minute. Mon Dieu, c'était absolument affreux. J'impose le silence, je censure une femme dans une émission consacrée à l'exposition Encore Elle, dans le cadre de l'événement à Corps et à Cris. Vous ne lui direz rien. Hein, c'est pour les besoins. 14h55, il nous reste encore 5 minutes. Je crois que le blues des Canuts va bien commencer à 15h tout à l'heure. Donc prenons ces 5 minutes pour évoquer plus précisément quelques œuvres que la commissaire d'exposition que vous êtes souhaiterait commenter, mettre en avant.
Alors, je vais tâcher de ne pas faire de jalouse. Alors, je ne parlerai pas de Sabine Lee parce qu'on en a déjà beaucoup parlé.
Ah, c'est bien.
Alors, c'est difficile parce que toutes ces œuvres
vous les avez choisies.
Je les ai toutes choisies. Mais je vais prendre en fait trois personnes et trois personnalités différentes avec un travail totalement différent. Alors, je commencerai peut-être par, finalement, dans mon hommage... je dirais la plus ancienne, j'espère qu'elle le prendra pas mal, et c'est Raymond Darcier. Raymond Darcier, pour moi, c'est une grande dame. C'est une artiste impliquée, engagée, qui s'est beaucoup impliquée au sein du MLF. Dans l'exposition, vous pouvez vous voir d'elle deux œuvres. Alors, il y a une première œuvre qui est un collage, Poulette aux œufs d'or. En fait, ce Poulette aux œufs d'or, ce collage, il va servir d'illustration pour le Torchon Brûle, puisqu'elle était amenée à faire des illustrations pour le Torchon Brûle,
revue, qui est magazine
du MLF.
Ouais. On remonte donc aux années 70, là.
Voilà, là je pars de Raymond Darcier, on repart aux années 70.
Qui est une.
Une
mémoire.
Voilà, exactement.
Une ancienne,
Qui a toujours la même implication. Donc je trouve ça très beau.
Vous l'avez rencontrée pour l'exposition?
Oui, j'ai rencontré avant. Toujours la même implication, qui a toujours les mêmes valeurs, et qui continue. À créer. Comment j'ai découvert cette personne, parce que finalement, elle est assez... elle a été, en tout cas, pendant longtemps, d'ailleurs, comme beaucoup de femmes, faut bien le souligner, elle a été assez méconnue. Les artistes femmes sont assez mal représentées. Encore aujourd'hui, c'est très compliqué pour elles d'être dans les institutions ou d'avoir des expositions, il faut quand même le rappeler. Et Raymond Darcier, en fait, je l'ai connue parce que j'ai découvert son œuvre, une de ses œuvres... au Centre Pompidou, qui s'appelle Au nom du Père, hein, qui est une sculpture monumentale. Je vous invite toutes et tous à aller regarder un petit peu ce que c'est qu'Au nom du Père, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Et toujours est-il que j'ai eu envie de l'exposer. Alors donc j'ai exposé à la fois son collage Poulette aux œufs d'or, mais l'envie pour la troisième partie de présenter un cabas géant. Et alors pourquoi un cabas géant? Parce que Raymond Darcier, elle part en fait des objets du quotidien et surtout du travail invisible des femmes qu'elle veut rendre visible. Et je trouvais sa démarche intéressante, enfin je la trouve toujours intéressante. Et donc en fait, dans tout ce qu'elle va faire, elle va faire que ça soit des serpillères, en fait des jeux de dames en serpillères, elle va faire des cabas, des éponges, en fait tout est géant, dans des dimensions monumentales. Et elle utilise systématiquement... l'outil entre guillemets les matériaux utilisés par les ménagères ou les femmes au foyer, donc ça sera le tricot, le tissu, voilà. Donc ça, c'était une première personne. Deuxième personne totalement différente qui est plus dans, alors c'est pas tout à fait la jeune génération, mais qui est quand même qui questionne les normes de genre, qui est Suzanne Juncker. Suzanne Juncker est une ancienne mannequin. Et très rapidement, en fait, elle prend conscience, en fait, elle se questionne, elle s'interroge sur son métier et sur ce qu'elle est en train de faire et pourquoi elle le fait et ce à quoi, en fait, finalement, les femmes se soumettent pour répondre à ces normes esthétiques. Et donc il y a tout son travail qui porte là-dessus. Je trouvais son travail intéressant. Et d'ailleurs, on avait discuté ensemble et elle m'expliquait que ce que je vous disais dans la construction des discours, ce qui est important, c'est qu'elle disait que finalement elle avait reçu une culture, une éducation catholique très profonde, et que finalement elle avait toujours dans cette éducation, on lui avait en fait, elle avait intégré l'idée de soumission. C'est en étant mannequin qu'à un moment donné elle s'est dit, mais pourquoi finalement je me soumets, et voilà, et où elle se dit, mais en fait moi j'ai toujours intégré ça Et donc elle le questionne, elle le réinterroge et elle montre que c'est aussi possible de le dépasser.
C'est au tout début de l'exposition, hein. c'est l'une des premières artistes, deux œuvres
qui ont été faites à 17 ans de différence, puisqu'elle se montre en fait dans la même position, d'ailleurs agenouillée, position qui fait référence d'ailleurs à cette grande figure biblique, et notamment par exemple à des personnes comme Marie-Madeleine, qu'on peut voir dans toutes les représentations. On voit ces femmes agenouillées, éplorées. Donc voilà, elle partait de ça.
Est-ce qu'on pourrait ajouter soumise ?
Soumise, oui. Et donc elle montre en fait à deux instants T, pour interroger la question sur son corps. En fait, elle a des étiquettes, et sur ces étiquettes sont marqués des mots comme anorexie, chirurgie plastique, alcool, en fait ce à quoi les femmes se soumettent. Et puis on va avoir la question de l'âge. Est-ce que
Botox,
la beauté,
hein,
c'est à 16
aussi.
Ans Oui, exactement, à 30 ans, à 40 ans. Donc voilà, elle rappelle tout ça. Et la dernière artiste...
À 15h01, il faut effectivement... c'est très bien. Le blues des canuts va commencer, auditeurs, auditrices, dans quelques instants. Nous terminons sur très intéressante exposition, encore
seconde,
elle.
Deux secondes, hein, parce qu'il faut quand même... C'est Kubra Khademi, qui est une artiste afghane, qui est une personnalité incroyable, qui travaille énormément sur le corps des femmes. Ce travail sur le corps des femmes délivre tout un tas de messages. C'est un vrai exemple pour moi de courage, de force et surtout de liberté, parce que elle prend vraiment, en tout cas elle s'engage, et c'est une personne qui a, pour créer et pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses démarches artistiques, qui a mis sa vie en danger, qui la met toujours en danger. Et une de ses œuvres qu'on présente, en fait, ça s'inscrit dans une série, et elle
sur
se
les,
sert
les mille et une nuits, sur le
c'est de Al-Rumi, et en fait elle se sert de cette histoire pour créer tout un et pour donner une leçon, en fait, pour montrer que finalement les femmes, à travers il y a aussi une transmission qui peut parfois être négative, mais qui peut aussi être positive. C'est-à-dire que ces femmes entre elles vont se transmettre tout un tas d'histoires qui leur permettent finalement de se réapproprier leur corps en se moquant de celui des hommes et de cette domination. Donc oui, c'était important de... Je termine donc par Kubra Khademi.
C'est un tableau, voilà. C'est ça ? Et c'est bien une cuisson qui a lieu, non ?
Oui, c'est une cuisson, en fait. C'est une jeune servante. Enfin, on voit une jeune femme dénudée, sans d'ailleurs qui correspond, épilée, plutôt d'ailleurs avec des traits enfantins, qui est en train de faire griller un phallus d'âne.
Énorme.
Voilà, on peut bien le dire. Et donc, ça s'inscrit en fait dans toute une série, Bagages de route. Alors si vous me laissez, vous me redonnez la parole, alors tant pis pour vous, pour l'émission.
Bon, Blues et Canuts va commencer, les auditrices, rassurez-vous, dans quelques instants il commencera, et pas donc, tout de suite.
Alors je vais vite. Et donc en fait, dans cette histoire, en fait, c'est donc dans un harem, une servante qui a des rapports avec son âne, et sa patronne, qui est délaissée puisqu'elle était dans un harem avec beaucoup de femmes, décide d'avoir des rapports, mais elle ne prend pas en compte les conseils de sa servante, et donc ça se passe très mal pour elle. Donc ça c'est une œuvre, et c'est surtout une artiste très intéressante, et on l'a reçue à la Bibliothèque de Lyon. Vous pourrez la réécouter puisqu'elle a été filmée lors de sa conférence. Je vous invite, parce que c'est vraiment une personne incroyable à découvrir. Et si on va terminer, mais est-ce que je peux terminer du coup ?
Oui.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont énormément aidée pendant cette... Durant l'organisation de cette exposition. Alors il y a tous les services, communication, action culturelle, enfin technique, vraiment on a une diversité, et puis aussi les gens qui aujourd'hui font l'action culturelle, mais font aussi l'accueil et la surveillance. Donc ça, c'est les personnes que je tiens à remercier, mais je tiens à remercier vraiment ceux qui m'ont aidé sur le contenu, sur la sélection de documents. Donc il y a toutes les personnes du Fonds Ancien, qui sont Jérôme Sirdet,
que nous avons reçu, Jérôme Sirdet, il y a quelques années.
Et vous recevrez peut-être, parce qu'il montrera bientôt dans livre, 2 ans, une très belle exposition.
C'était le passage du livre à l'imprimé.
Exactement,
je crois.
Ouais.
Ah, vous voyez, on reçoit tout le monde. Digli est venu.
C'est super.
donc
vous le recevrez encore.
On le fera avec plaisir.
Ravier Benjamin Mezzocco, qui est aussi au Fonds Ancien. Amandine Souvray, qui est aussi travaille au Fonds Ancien. Autre collègue, Guillaume Morin. Et puis alors les deux personnes qui vraiment ont été d'un grand apport aussi, Ce sont Sylvie Tomolillo et une stagiaire, Léonie Fiebens. Donc ça, je tenais à les remercier voilà, dans votre émission.
Ah, mais moi, je tiens également à remercier Odeline Manzoni qui a
été vraiment... un support. La communication a fait un grand travail.
Vraiment formidable pour rendre possible cette rencontre. Je vais peut-être garder cette sorte de provocation que j'extrais de la brochure Girls One Have Sound. C'est toujours en écho avec Accords et Acris. Une brochure qui présente des artistes féminines dans la musique, et la Féline qu'on aurait pu recevoir il y a deux trois semaines avec Bertrand Belin, elle est venue chanter à Carte Blanche à l'Opéra de Lyon. On lui demande, en tant que femme, avez-vous parfois éprouvé des difficultés pour faire votre place dans le milieu musical? Et elle répond, je ne crois pas qu'il soit plus difficile d'être reconnue comme musicienne que comme musicien actuellement, je crois même qu'à certains égards, il y a un certain avantage à être une artiste femme dans le contexte actuel. Alors oui, c'est une phrase que j'extrais de son contexte. Non, la situation des femmes reste difficile. Auditeurs, auditrices, dans le métro de Lyon, allez prendre les brochures donc illustrées par Digli, que nous avons reçues il y a de cela une petite année. Digli qui donc illustre, je l'ai, harcèlement sexiste, tout le réseau dit stop. Il y a beaucoup de choses encore qui sont à faire et à voir. Demain, par exemple, le procès de Don Juan. A quitté le Carré 30. Nous avions reçu il y a de cela deux semaines Andrea et Chloé. Elles sont présentes toujours avec la compagnie de la Botte d'Or dans le cadre de l'exposition à la bibliothèque même, c'est ça? Salut,
oui,
c'est
oui,
ça.
À la dans un espace, de la tout à fait.
Dans un espace retiré. Je crois que c'est à 18h, hein, il me semble. C'est fin d'après-midi, le procès de Don Juan. J'ai pu la voir depuis l'émission, cette pièce. Ah, le patriarcat, c'est terrible, ça fait beaucoup de mal. Je termine avec une annonce au moins. J'avais encore maintes choses à annoncer. Au Célestin, beaucoup de spectacles, l'auditorium, beaucoup de concerts, à l'opéra, beaucoup d'opéras, à la Maison de la Danse, Angeline Prelyokai à venir, enfin vraiment plein de choses. Back to the Future à l'auditorium, Leonard Slatkin, l'ancien chef qui revient pour diriger quelques œuvres. Au Célestin, Médée, Un, Fracasse et Raymond Deveau par François Morel, mais... Je souhaite surtout annoncer la venue, le concert de Priscilla Orvillier avec Jean-Louis Almos Nino pour du jazz le 3 décembre, vendredi. Priscilla Orvillier, autrice de bande dessinée, est également venue à l'émission. Elle est venue en tant qu'autrice parce qu'elle a fait une belle œuvre sur la baronne du jazz qui a beaucoup vécu avec, qui a beaucoup fait pour le pianiste Thelonious Monk. Elle viendra chanter du jazz. Ça se tient à Agendard. C'est sur la rue de Belfort. C'est celle-ci, la rue de Belfort à la Croix-Rousse. 15h07. Mon Dieu, le blues et canu va commencer dans quelques instants. Anne-Laure, merci beaucoup.
Merci bien. Merci.
Je vous demande une dernière chose. Quel titre de Anne Passé au lancer pour cette fin d'émission? Wow. J'ai du Shaman. C'est l'album Shaman, je crois. Bright Shadows.
Allez,
je sais pas.
C'est parti.
Bright Shadows,
ouais,
c'est ça?
Allez.
Le clip officiel. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour cette programmation.
Merci pour
cette exposition. Auditeurs, auditrices, soyez visiteurs, visiteuses. Le pass sanitaire est demandé, certes, mais c'est vraiment, c'est plus qu'intéressant. C'est stimulant et c'est une œuvre, une exposition nécessaire, je crois. Merci Anne-Laure, merci les bibliothèques.
Merci.
Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. Keeps the laser.